Daniel Habert, notre géopoliticien maison, avec Isaac Franco, bien sûr, mais Daniel Habert, dans ses conversations, Lucie, eh bien, vous vous êtes entretenu sur les négociations en cours pour le cessez-le-feu à Gaza et bien sûr la libération de tous les otages. On écoute votre échange.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Lucie et bonjour chers amis.
Comme chaque semaine, nous allons décrypter avec vous une séquence de la géopolitique mondiale et plus particulièrement la géopolitique du Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous évoquerons donc avec vous les négociations de l'accord pour la libération des otages. Alors tout d'abord, à la lumière des dernières évolutions opérationnelles et diplomatiques, quelle est la signification profonde de ces négociations?
En fait, on demande à Israël de changer de stratégie, tout simplement. La stratégie du gouvernement actuel, celui qui est mené par Netanyahou, c'est d'en finir avec le Hamas, c'est-à-dire de faire en sorte que le Hamas ne soit plus le maître de Gaza, c'est-à-dire qu'il s'en aille, que les dirigeants politiques s'en aillent. Et donc là, cette stratégie, elle est justifiée par le fait que le 7 octobre, c'était inacceptable. Mais donc, la stratégie que propose au fond le président Biden, hein, qu'il attribue d'ailleurs aussi à Israël, qui est de faire un cessez-le-feu en trois étapes, a comme signification profonde, quand même, au bout du processus, de laisser le Hamas à Gaza. Donc, c'est un changement assez, assez radical. Une chose peut-être qui fait basculer peut-être l'esprit, parce que c'est ce scénario jusqu'au boutiste, hein, celui de se débarrasser du Hamas, c'est celui du gouvernement israélien, c'est celui du cabinet de guerre et c'est celui de la majorité de la population israélienne. Comment vivre avec le Hamas, c'est inacceptable. Mais la libération magnifique de quatre otages a montré que ce scénario avait ses limites en fait. Il y a eu un mort, il y a eu un officier, Zamora, qui est mort. Donc, on récupère quatre otages, mais on a un mort de plus important. Donc, c'est pas très bon. Et puis, tout de suite, Israël a dit, une telle opération, on peut pas la répéter plusieurs fois. Ça a été énorme. On pourra pas le faire à nouveau. Donc, ça veut dire qu'on pourra pas libérer les otages par la force. Donc, le scénario de récupérant les otages par la négociation fait son chemin, précisant peut-être par cette libération des otages. Donc voilà, c'est un tournant et peut-être qu'Israël va se résoudre, c'est peut-être le sens de la pause actuelle, à accepter de laisser Gaza. L'argument américain étant de dire, vous avez déjà tellement affaibli le Hamas qui peut pas devenir un danger important rapidement. Donc, et j'ai entendu beaucoup de scénarios de militaires israéliens dire, peut-être qu'il faut reconsidérer un peu toute notre vision de la chose. Le Hamas peut-être n'est pas notre principal ennemi, c'est plutôt l'Iran et le Hezbollah qu'on a devant nous. Donc peut-être qu'il serait bon d'arrêter maintenant et de revoir un tout petit peu notre organisation militaire, notre stratégie militaire, nos tactiques militaires, nos moyens militaires pour affronter les ennemis beaucoup plus sérieux que le Hamas qui sont le Hezbollah et l'Iran. Voilà, c'est un peu ça ce qui joue en ce moment, un peu en bascule, oui, tout à fait.
Alors, vous l'avez évoqué, donc l'armée israélienne a indiqué ce week-end une pause tactique pour des raisons humanitaires. Et dans le même temps, il y a des voix qui s'élèvent pour l'instauration du cessez-le-feu, des voix un peu, disons, singulières qui sont le Hezbollah, par exemple, parce qu'il y avait des voix de la communauté internationale avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça signifie? Est-ce que c'est le signe que ces négociations avancent dans le bon sens?
Oui, parce que bon, en même temps qu'il y a des opérations à Gaza, il y a tous les jours des opérations au nord avec le Hezbollah, et donc on pense à une opération de grande envergure à Hezbollah qui est peut-être pas prêt ou qui est peut-être poussé par l'Iran à ne pas le faire. Mais pour Israël, si vous voulez, c'est ce que je disais, cette réflexion actuelle, et je pense qu'on est en stade de réflexion très approfondie, elle est aussi tournée vers, et c'est le sens de votre question, vers qu'est-ce qui se passe après qu'on ait fait le cessez-le-feu. Et là, on s'aperçoit que le vrai ennemi étant l'Iran et le Hezbollah, l'idée de reconstituer très vite ce qui était juste avant le 7 octobre, l'idée majeure d'Israël et des Américains, qui était un accord avec l'Arabie Saoudite, pour constituer un front uni des Arabes sunnites avec Israël et avec les Américains contre les vrais ennemis qui sont l'Iran et le Hezbollah. Donc, l'idée de reprendre les négociations avec l'Arabie saoudite, elle est centrale. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que l'Arabie saoudite est d'accord? Est-ce qu'elle serait d'accord pour reprendre les négociations? Et surtout, quelle garantie de sécurité les Saoudiens vont obtenir des Américains? Parce que si les Saoudiens acceptent de signer la paix avec Israël, les conditions sont très élevées. Et en particulier, c'est des garanties très fortes du côté américain. Pratiquement, ce que demandera l'Arabie saoudite, c'est un traité de garantie, une sorte de même d'OTAN du Moyen-Orient qui dirait si un pays du front sunnite, l'Égypte, l'Arabie saoudite ou un autre, ou même Israël est attaqué, tous les autres sont solidaires. Un peu ce qui s'est passé la nuit du 13 au 14 avril, quand l'Iran a envoyé ses missiles, tout le monde a été solidaire, les Américains, Israël et les Arabes sunnites. Mais comment peut-on constituer ça de façon permanente? C'est un petit peu ça aussi, peut-être le sens de votre question et pour Israël, le sens de la réflexion actuelle, comment lier les deux en fait? Lier à la fois le cessez-le-feu à Gaza pour tout de suite rebondir sur la constitution d'un front sunnite qui est pas simple parce que ça, il y a des difficultés.
Alors justement, très bonne transition, quels sont les obstacles aujourd'hui à ce cessez-le-feu?
Moi, l'obstacle principal que je vois, c'est la réflexion que peut se faire l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, elle regarde, elle parle avec tout le monde, elle parle avec l'Iran, elle parle avec la Chine, elle parle avec les Américains, elle parle avec Israël. Et donc, l'obstacle principal, c'est si je me mets dans la peau des Saoudiens, c'est quelle crédibilité j'ai des garanties que m'offrent et Israël et les Américains. Et le fait de ne pas être capable aujourd'hui de vaincre définitivement le Hamas montre des limites à la capacité militaire israélienne. Les atermoiements de Biden et les pressions que fait Biden sur Israël pour ne pas aller trop loin, ça peut aussi faire peur à l'Arabie saoudite en disant, voilà, on va s'allier à deux puissances, la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient, Israël, la plus grande puissance militaire mondiale, les Américains, mais c'est pas des gens très sûrs, ils n'y arrivent pas. Israël s'est fait avoir le 7 octobre, elle n'arrive pas, elle va être obligée de signer un cessez-le-feu avec le Hamas. Les Américains ont beaucoup freiné les ardeurs israéliennes. Qu'est-ce qui m'arriverait, moi, si j'étais attaqué? Est-ce que je suis sûr que je serais bien défendu? Je pense que c'est ça le principal obstacle.
Et enfin, Daniel Habert, comment cette dynamique pourrait-elle évoluer dans les prochaines semaines?
C'est vraiment toute l'interrogation. Il y a une date qui a été donnée pour la visite de Netanyahou à Washington. Vous savez qu'il est invité par le Congrès le 24 juillet, mais c'est loin le 24 juillet aujourd'hui, hein, c'est dans 6 semaines. Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que les négociations vont prendre 6 semaines? Est-ce que Biden va pas tout faire pour que cette invitation ne soit retirée? Parce que c'est quand même, ça rappelle 2015 quand le même Netanyahou est allé parler devant le Congrès sans aller voir Obama à la Maison-Blanche. C'est quand même assez, c'est pas très poli. C'est même un revers diplomatique majeur. Et Biden, qui était vice-président, il s'en souvient, hein, donc il a une dent contre Netanyahou. Donc peut-on attendre jusqu'au 20? En fait, la vraie question, c'est peut-on attendre jusqu'au 24 juillet? Et puis, la deuxième question en filigrane, c'est qu'est-ce que va dire Bibi devant le Congrès le 24 juillet qui pourrait faire changer les choses? Je pense que lui parlera justement de la nécessité pour les Américains de s'impliquer au Moyen-Orient, de considérer que le vrai ennemi, c'est l'Iran. Et que si les Américains poursuivent leur politique entamée justement par Obama de se retirer de l'Europe, du Moyen-Orient, pour tout focaliser sur la Chine, ils vont laisser le Moyen-Orient, au fond, ils vont la livrer à la Chine. C'est un peu ça l'argument de Netanyahou. Donc on est dans la on part de, on est parti ce matin de la libération des otages, et on arrive à la grande stratégie, en fait, géostratégique, parce que tout est lié, hein. Et c'est pour ça que le scénario d'une négociation sur la libération des otages, elle prend du poids parce que la lutte contre le Hamas est beaucoup moins importante aujourd'hui que l'Iran et que la grande géopolitique mondiale qui voit les Américains se demander où sont leurs priorités. Et puis Biden qui a devant lui Trump, hein, et qui peut renverser un petit peu tout ça. Donc on voit bien qu'on est dans une période au fond très cruciale en ce moment. Est-ce que ça durera jusqu'au 24 juillet? Oui, c'est votre bonne question de conclusion.
Eh bien, Daniel Aber, c'est déjà la fin de notre entretien hebdomadaire. Merci de nous apporter votre éclairage, comme chaque semaine, et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.